Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Des femmes qui, pendant des années, attendent des hommes mariés, pris ailleurs, enchaînés dans des relations qu'ils ne peuvent ou ne savent quitter, ou simplement au comportement ambigu, flou, passif-agressif. C'est le sujet de trois histoires que nous avons racontées en novembre dernier, appelées « L'attente des femmes ». Nous nous étions plaintes à cette occasion, enfin nous avions un peu râlé de n'avoir trouvé aucun homme prêt à évoquer ce genre de passé peu édifiant, à se donner le mauvais rôle, celui de l'homme délaissé qui attend en vain. Et puis ça n'a pas manqué, il a suffi de le dire pour me faire contredire. « Bonsoir », écrit ce jeune homme le jour même, « j'étudie la philosophie à Montpellier et j'aime les randonnées. En entendant l'épisode d'hier, j'ai été choquée qu'aucun homme ne se soit signalé pour raconter une petite histoire de bon aloi. Je me suis dit que plein d'hommes comme moi allaient alors vous faire part d'une histoire d'attente et que ça pourrait peut-être faire un épisode « L'attente des hommes ». Alors la mienne, la voici. Bonjour, écrit un autre auditeur breton qui souhaite qu'on l'appelle Michel, sur un ton plus précieux. Je ne sais pas si mon histoire, entre guillemets, est intéressante ou originale, mais je tenais à vous faire savoir que si vous envisagiez de faire un deuxième volet consacré à des histoires racontées par des hommes, je serais prêt à vous parler de mon cas personnel. Et puis d'autres sur les réseaux sociaux ne se sont pas dégonflés et nous ont parlé de leur ego malmené, de ces mâles qui soupirent en mode duc de Nemours du 21e siècle. Des hommes transis, éplorés, qui souffrent et pleurent dans 20 villages de France, mis à mal dans leur virilité, traités comme des poupées gonflables, je cite, comme des gigolos, des esclaves sexuels, des hommes objets réduits comme une sauce. Bref, des gars qui disent plus ou moins la même chose que les femmes et sûrement pareil que les non-binaires. C'est tout de suite dans Les Pieds sur Terre, trois histoires, l'attente des hommes, Paradis Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Yves, j'ai 29 ans, je suis officier de la marine marchande, donc je travaille sur les navires de commerce, et plus exactement les bateaux de croisière, et je navigue un petit peu partout à travers le monde. Léna, je l'ai rencontrée quand j'étais à bord. Donc la première fois moi que je l'ai vue, elle arrivait en fait sur le bateau, et puis moi j'étais élève, donc le bateau en fait se préparait à partir dans quelques jours, et en fait il y avait beaucoup de choses à faire, donc en tant qu'élève, moi on m'envoyait faire des boulots à droite à gauche, donc je courais un petit peu partout. Puis la première fois que je l'ai vue, je l'ai aperçue dans une coursive au niveau de l'uniform store, et puis elle récupérait ses affaires. Moi j'étais dans mon travail, donc je faisais mes trucs, et puis un bonjour furtif, et puis ensuite après, le temps du midi, se retrouver tous les membres d'équipage tous ensemble pour déjeuner, la recroiser, donc discuter avec les collègues. Tiens, j'ai croisé cette personne, là c'est nouvelle. Ah bah oui, c'est la nouvelle pianiste. Ah ouais, dis donc, elle est jolie, elle est pas mal et tout. Donc on commence à discuter, et puis au bout d'un moment, on a continué à discuter, puis une fois j'ai fini par tenter le coup. On était après mon quart de nuit, donc il devait être minuit passé, et on arrivait justement en Normandie. Donc je lui avais dit tiens, si tu veux on peut aller sur le pont extérieur, vu qu'on arrive près de chez moi, je peux te montrer la côte, voir à quoi ça ressemble. Et justement on était à l'extérieur tous les deux, donc je lui disais tu vois les lumières qui sont là-bas, c'est Le Havre, donc c'est ma ville. On était l'un à côté de l'autre, il faisait pas très chaud, donc je la prenais un petit peu dans mes bras. Et au bout d'un moment, je lui dis en anglais, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si je peux, quoi. Et puis elle m'a dit, c'est quoi? Et puis j'ai embrassé, donc c'était très agréable, très intense comme moment. Et juste après, effectivement, elle me dit, c'est très gentil, mais je suis marié. Et alors là, on a l'impression d'être un magasin de porcelaine à l'intérieur où tout se brise. Oh merde, c'est tout. Donc, puis là, on commence à balbutier ou à présenter des excuses. Alors, en plus, comme le tout est en anglais, donc c'est pas forcément évident de chercher en plus ces mots. Je commençais à partir tout penaud, et puis finalement, c'est elle qui m'a retenu. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. « Là, j'arrive de Charles de Gaulle, puisque donc en fait elle est russe de Crimée, mais vit dans l'est de l'Ukraine. Donc là, elle est repartie à 5h du matin de Paris pour arriver jusqu'à chez elle. Bah donc chez elle, ouais, elle vit avec son mari. Donc elle est mariée depuis 18 ans avec un homme qu'elle connaît depuis plus de 20 ans. Tous les deux sont musiciens. Et très honnêtement, c'est pas l'idée qu'on pourrait s'en faire de voilà, elle est avec moi parce que elle essaie d'échapper à une situation plus morose chez elle ou quoi que ce soit. Ils s'aiment, hein, ils s'aiment toujours. C'est juste qu'en fait, on a des modes de vie qui sont très particuliers, pour ne pas dire compliqués. C'est-à-dire que moi, je travaille au minimum la moitié de l'année en dehors de chez moi, si ce n'est même les trois quarts de l'année. Elle également, elle fait des contrats sur les navires de plus de 6 mois. Son mari également étant dans un orchestre, il part régulièrement en déplacement. Donc en fait, ce sont des vies qui sont très décousues les uns des autres. Mais du fait de nos modes de vivre, on est tombé l'un sur l'autre. C'est pas quelque chose de malsain, c'est quelque chose vraiment de fusionnel, quoi. On s'est trouvé sentimentalement, mais voilà. La majorité de nos temps, on les passe à bord lors de nos contrats communs. Donc je sais que la prochaine étape, bah, c'est de savoir quand est-ce qu'elle aura ses dates pour son prochain contrat et sur quel navire. Comme ça, moi, dès que j'ai une information, bah, je demande à avoir le même navire de manière à être sur le même bateau. Et bah, quand on est à bord, en fait, chacun a l'attribution de sa cabine. Moi, j'ai l'avantage d'être officier, donc j'ai ma cabine tout seul. Elle est avec une autre membre d'équipage, donc ils sont à deux par cabine. Et généralement, bah, quand on se retrouve, elle vient habiter avec moi. À partir du moment où on s'est mis ensemble, que ce soit de mes temps d'élève ou de mes temps d'officier, on n'a jamais passé une seule nuit l'un sans l'autre. Et pourtant, on a des lits, la majorité du temps, c'est des lits une place ou une place et demie. Pour moi, Elena, c'est ma femme. C'est ma femme à bord. Quand je la présente, voilà, bonjour, je vous présente ma femme. Elle me le dit aussi, voilà, j'ai mon mari là-bas, mais toi, t'es mon mari du bateau. Je pense peut-être que c'est aussi peut-être une situation ou une idée pour se réconforter l'un l'autre, de peut-être ne pas être ensemble tout le temps. Il y a quand même quelques coups de mou, hein. Faut pas se leurrer. Quand on est un peu dans un petit creux de la vague, bah, tout ce qu'on n'a pas ou tout ce qui nous manque, ça nous paraît plus dur à supporter. Donc c'est vrai que oui, ce matin, quand je l'ai laissé, bah forcément, il y avait quand même une espèce de grosse boule au ventre. J'ai pleuré, elle-même d'ailleurs. On a continué à se parler juste après sur Facebook, et effectivement chacun disait que voilà, il n'était pas bien l'un sans l'autre, qu'on n'aurait qu'une envie, c'était de pouvoir courir l'un vers l'autre pour se retenir dans les bras, s'embrasser, se cajoler et tout ça, et ne pas se quitter. Je suis forcément un petit peu jaloux de la situation qu'elle a, de pouvoir rentrer comme ça et puis que son mari puisse la voir tous les jours. Moi, j'aimerais bien aussi avoir la même chose. Ça peut m'arriver de voir d'autres filles. J'ai sa permission, entre guillemets. Mais pour moi, dans mon cœur, il n'y a que Elena. S'il y a quelqu'un qui peut décider, c'est bien elle, puisque c'est elle qui décidera si un jour elle doit venir avec moi ou si elle décide finalement de rester avec son mari. Mais ça ne sert à rien que je me vexe, puisque moi je suis arrivé après. Donc je peux pas dire « ouais, c'est pas juste, je veux ça ». Voilà, je suis arrivé deuxième, donc je connaissais la situation, donc j'ai accepté aussi les règles du jeu. Donc effectivement, oui, il y a un petit côté jaloux, mais il y a en même temps aussi un petit côté... c'est la vie, on prend ce qu'il y a. Dans l'attente, effectivement, que la situation s'inverse. Ou pas.
Thank you. m'appelle Malik, je vais avoir 45 ans. La première fois que j'ai vu Stéphanie, j'étais assez surpris. C'était il y a 15-16 ans. Elle était venue voir son neveu, qui était un grand métis, et je tombe sur une très belle rousse, aux yeux verts d'un mètre 80-85. J'avais 28 ans, c'est une dame qui en avait 41. C'était quand elle est rentrée dans la pièce pour voir son neveu. Je travaillais dans la publicité pour un théâtre. J'ai été subjugué, c'était assez rayonnant. Et j'attendais à chaque fois de savoir quand elle arrivait, sans poser de questions pour pas être trop cramé par rapport à ça. Toute l'histoire commence après ce premier café, où on discute et qu'elle m'explique qu'elle avait très bien remarqué que je la regardais, que je lui plaisais. Et moi, je pensais que j'étais juste une dégustation à ce moment-là. Je pensais que c'était une femme qui voulait s'amuser. Alors, j'y allais franco. Dans mes souvenirs, on ne s'appelait pas. Tous nos échanges se passaient par mail. On se voyait très peu. J'étais assujetti et je n'avais pas son numéro de téléphone, donc j'étais assujetti à ses venues. Je ne pouvais pas me permettre par mail, après les poèmes, de lui dire « j'ai envie de te voir, je veux te voir, je voulais pas être... » J'avais peur de la réaction qu'elle pouvait avoir si elle sentait que j'étais accroché dans ce sens-là. Cette histoire a duré quelques mois. On a pu se voir une à deux fois par semaine, comme une à deux fois dans le mois. Je suppose, parce que je ne connaissais pas sa vie. Je me suis jamais permis de poser ces questions, qu'elle ne vivait pas du tout à Paris. Je n'ai jamais su ce qu'elle faisait dans la vie. Je sais que son mari était très riche. Parce que les voitures différentes dans lesquelles je la voyais arriver me montraient que c'était une femme aisée et que son mari était très riche. On se voyait plus souvent à l'hôtel. Le plus souvent, c'était à Paris. On allait boire un verre, on se baladait et... On se regardait, on se passionnait, on avait envie l'un de l'autre, donc on s'arrêtait. J'avais 28 ans, elle en avait 41. Et quand on se rencontrait comme des adolescents. Mais on se voyait comme des adolescents au bout d'une rue. Au bout d'une rue, et je montais en voiture. Pour moi, c'est qu'à cet instant-là que je sentais l'amour un peu interdit. Pour moi, c'est que là que c'était caché. Mais sinon, dès que j'étais en voiture, pour moi, c'était totalement différent. C'était le jour de mon anniversaire, elle m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis rien, elle m'a dit « j'ai loué une petite chambre bleue ». Et je pensais vraiment que ce serait à côté. Et les Paris devient la campagne, et la campagne devient loin. On se retrouve sur le lac d'Annecy. Mais là, c'était pas la première fois qu'on faisait l'amour, mais c'était une des plus belles fois. Elle avait une tendresse débordante. Un regard sur la vie qui n'était pas celui que j'avais. Elle avait juste vraiment envie de brûler, elle avait envie de passion, elle avait envie de me montrer le monde tel qu'elle le voyait. Je me suis juste posé une fois cette question, est-ce que c'était sincère une seule fois? Est-ce que j'étais juste en mode gigolo ou est-ce que... Mais ça a été effacé après, hein. Quand t'es avec la personne et que tu vis les choses, tu ne te poses pas les questions. J'avais très bien compris qu'il ne fallait pas que je lui montre que j'avais envie de la voir. Mais c'est assez frustrant de ne pas le dire. Tu me manques. Je pense que mon impatience s'est remarquée. J'ai dû poser trop de questions à ce moment-là. J'avais hâte. Mais il ne fallait pas que je lui montre. Je n'aurais jamais voulu mettre en couple avec Stéphanie. Je voulais juste que, à l'époque, ça dure éternellement, en fait. Elle m'avait proposé de descendre dans le sud. Partait vivre à Nice. Elle se séparait de son mari. Et elle m'a proposé de venir à Nice et j'ai dit non. J'ai refusé. C'était pas forcément mon style de vie à 28 ans. Quand on s'est revus, elle et moi, j'ai eu un accident de moto. Et on s'est donné rendez-vous à Porte de la Villette. Et je suis arrivé en taxi, ce qui l'a surprise. Elle était dans sa voiture et quand elle est sortie, elle m'a vu. Et ça, dans son regard, ça m'a fait bizarre parce que dans son regard, j'ai senti la déception de me voir diminuer. Là, c'était fini. Et ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu.
Moi, je me suis marié à 21 ans. J'ai 65 ans. Bah, c'était mon premier amour et mon seul amour. Et donc, voilà, on avait nos trois enfants. On allait tous les étés passer les vacances dans la maison de famille de mes parents, dans la maison de vacances de mes parents. Et donc, on a rencontré comme ça, donc, Jacques et Corinne, par hasard, à un dîner. Donc, on a bien sympathisé. On a fait pas mal d'activités avec les enfants. On se retrouvait régulièrement avec les enfants. Et ça a duré, ça, sur... je sais pas, 10-15 ans, quelque chose comme ça, avec une répartition qui était un petit peu marrante, parce que Corinne était une superwoman hyper active, voulant tout gérer. Moi, j'étais aussi un petit peu le bout en train et sportif et voulant faire des tas d'activités. Alors que ma femme et Jacques étaient plutôt les éléments calmes de l'ensemble des couples. Bon, à cette époque-là, je dirais, pendant les 15 premières années, il n'y a jamais eu d'idées, de débordements ou de choses qui aillent au-delà de nos relations à tous les quatre, et ça n'affectait pas du tout notre vie de couple les uns et les autres. Après, ben, les enfants ont un peu grandi, donc... Et puis, on avait d'autres amis qui venaient aussi, qui étaient dans le coin. Donc, on a fait pas mal de soirées, pas mal de réveillons. Pareil, Corinne et moi, nous dansions toute la soirée et c'était difficile de nous arrêter. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a un petit peu ressenti une attirance l'un pour l'autre. À tel point qu'effectivement... un beau soir, à la fin d'une soirée où on avait bien dansé, on avait peut-être 8 copains, quelque chose comme ça, à 2h du matin, on a décidé d'aller en boîte. Et là, en boîte, bah, on a continué à danser, puis là, en fait, j'ai embrassé Corinne. Ça s'est fait, je dirais, naturellement et spontanément, mais sans arrière-pensée, pour le futur, je pense, parce que moi, personnellement, j'avais pas de problème de couple, et puis honnêtement, j'envisageais pas du tout que ça aille plus loin. Elle, de son côté, c'était plus compliqué parce que son couple marchait pas bien. Mais bon, ça a continué comme ça, et ça n'a pas, comment dire, ça ne s'est pas renouvelé. Du moins, pas pendant un sacré laps de temps. Mais de fil en aiguille, ben, on s'est donné des rendez-vous où on se retrouvait, alors en fait, en voyage, puisqu'on n'a jamais habité la même ville. Mais comme elle bossait et qu'elle avait pas mal de voyages, et moi aussi, quand on n'était pas trop loin, ben, on se débrouillait pour dîner ensemble et puis se voir. Et forcément, un moment au milieu du repas où on se prenait la main, où on se donnait la main... Et il y avait forcément un moment où, quand je la raccompagnais à son hôtel, on s'embrassait devant l'hôtel, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Et puis, fatalement, à un moment, une des soirées en question, je l'ai raccompagnée à son hôtel, et puis, bah, naturellement, elle a passé prendre ses clés à la réception, et naturellement, je l'ai suivi, et naturellement, on s'est retrouvé dans sa chambre. Et là, elle m'a dit, mais faut être raisonnable. Et de fait, bah, on s'est couché, et on n'a pas fait l'amour. Il y a 5 ans, ma femme a eu un accident de voiture et elle est morte. Elle venait à peu près à la même époque. Corinne a un peu rué dans les brancards par rapport à son mari en lui disant « Tu te débrouilles avec ton boulot, tu télétravailles, de toute façon tu es tout le temps en déplacement, mais moi je ne veux plus vivre à Paris et moi je vais choisir la ville dans laquelle je vais habiter et on va aller habiter en l'occurrence à Aix. » Et moi, étant à Marseille, moi, j'avais plus de barrière, quelque part. Et ben, c'était facile de nous voir. Je l'ai beaucoup vu, on a fait beaucoup d'expos ensemble, on est allé voir beaucoup de spectacles, on a déjeuné ensemble des tas de fois, tout en sachant, à mon avis, l'un et l'autre, que le jour où elle sera disponible, je viendrai la voir et je lui dirai « Est-ce que tu veux vivre avec moi ?» Il y a une chose sur laquelle j'ai un peu de mal à assumer, c'est que je suis tout à fait dans le rôle du chevalier servant, voire de l'amour platonique, et je lui rends des tas de services et que je fais des tas de choses pour elle, que je fais spontanément dans le domaine soit de la galanterie, soit d'une forme de séduction, mais quelquefois, quand elle me demande de lui faire des courses ou des trucs comme ça, je me dis, t'es un peu la serpillière, quoi. Et bah, par exemple, je suis allé lui acheter son sapin de Noël, qu'elle a mis dans sa maison. Que voilà. C'est bête, hein? Et il y a des fois où, effectivement, je peux vivre un peu mal son côté insouciant, et puisqu'il est là, je vais lui demander ça. Alors que moi, je le fais dans une... Quand j'essaye de lui faire plaisir, je ne sais pas, je lui offre des fleurs, je fais des choses comme ça, c'est toujours quand même axé un petit peu, il y a quand même un petit peu un message derrière qui est que je suis amoureux d'elle. J'ai plus l'âge, le sentiment que j'ai maintenant, c'est que j'ai plus l'âge d'attendre indéfiniment. Donc c'est le seul doute que je peux avoir. Et on a eu des fois des conversations où je lui ai dit, avec tout ce que tu me racontes sur la vie pas agréable que tu as avec Jacques, maintenant que les enfants sont casés, que pourquoi tu le quittes pas pour avoir une autre vie, pour faire autre chose. Un jour, elle m'a dit, je vais quand même pas embaucher un tourailleur. Et là, à la fois, je pense que elle est dans ce schéma où on ne quitte pas son mari, on ne divorce pas, même une fois que les enfants sont partis, tout ça. Et peut-être, il est possible qu'elle ne soit pas amoureuse de moi.
C'était L'attente des hommes, un reportage d'Alice Babin réalisé par Alexandra Longuet avec un coup de main d'Anne-Laure Chanel. Merci à Michel, à Yves, à Malik et à tous les auditeurs qui ont répondu à notre appel. C'est Jeanne Delecroix, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire. Is it a video? Is it a video? Is it a video? Is it a video? For the love, for laughter, I flew up to your arms. Is it?